Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, le praticien RMC, c'est la saison 4, la Dream Team est présente deux fois par semaine pour commenter l'actualité des plus grands tournois, des plus grands champions, notre envie aussi, vous aider à progresser dans votre golf avec nos partenaires Ugolf, Blue Green et Callaway. On vous conseille sur la technique, sur le matériel et nous répondrons à toutes vos questions. Bon golf et bonne écoute.
Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Vous voulez participer à ce podcast, découvrir des contenus, des conseils? Je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du Practice RMC, l'épisode 49. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous allons connaître les 12 joueurs de l'équipe européenne de Ryder Cup. Un point, évidemment, sur notre équipe, sur déjà les 6 qualifiés dans ce nouveau numéro sur fond de polémique. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Aujourd'hui, pour animer ce Practice RMC, pour nous régaler, Fabien Denoyan, Hugo Blue Green, notre prof de golf Ramucho Artola, du golf Blue Green de Pessac, notre éditorialiste Martin Coulon et un ami du Practice RMC, le boss de Golf Planet, c'est François Simeka. Salut à tous les quatre.
Salut, salut.
Salut tout le monde.
Vous êtes déjà en mode Ryder Cup là ?
Non, à peine.
Europe, you...
Pardon. Oui, oui, à peine. Vous êtes tous pour l'équipe européenne d'ailleurs ?
Il rentre de New York, que... Ramucho, il est à fond.
Ah oui, d'ailleurs, il rentre de New York, mais pas n'importe où. Ah, New York, mais Best Page.
Évidemment.
Il a découvert Best Page et il va nous en parler dans ce numéro. Juste un mot pour qualifier Best Page ?
Fantastique. C'est original ça.
Ok, il y avait déjà des supporters américains qui nous insultaient ou pas encore?
Mais il n'y en a pas, ils sont là H24, 365 sur 365, donc non. C'était pas particulier au mois d'août là, non, ils sont là constamment.
Vous êtes tous pour l'équipe européenne?
Bah, évidemment.
Évidemment.
Bah, à ton avis, banane.
Évidemment. Non, je pose.
Bah, même s'il n'y a pas de Français, on est pour l'Europe, ouais.
Ok, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Français?
Ah oui, c'est sûr.
Non.
Ah Fabien, t'es pour qui alors? Parce que lundi, tu nous as laissé entrevoir peut-être une possibilité pour que tu sois pour l'équipe européenne cette année.
Ouais, parce que j'ai été séduit par l'immense Tommy Fleetwood, mais go USA.
Voilà, on va se régaler, c'est parfait. Allez, tout de suite, l'équipe européenne.
Le Practice RMC.
Dans moins d'un mois maintenant, la Ryder Cup 2025 du 26 au 28 septembre à Best Page dans l'état de New York. Les 6 joueurs d'ores et déjà qualifiés pour l'équipe européenne sont connus grâce au ranking. Rory McIlroy, Bob McIntyre, Tommy Fleetwood évidemment, Justin Rose, Tyrrell Hatton et Rasmus Højgaard qui a décroché ce week-end la dernière place qualificative grâce à sa 13e place au British Masters. Il déloge l'un des symboles de l'équipe européenne de Ryder Cup, Sean Lowry. Reste maintenant à Luke Donald, le capitaine, de choisir ses 6 picks, ses 6 autres joueurs qui viendront compléter cette équipe. Décision attendue lundi, le 1er septembre prochain. Le tout sur fond de polémique autour du système de qualification concernant la Team Europe lancé par un Français, Adrien Sadier. Mais ça, on y reviendra dans quelques minutes. D'abord, un premier constat sur ces 6 premiers joueurs qualifiés. Ça, c'est plus à faire. Il en reste 6 à prendre pour Luke Donald. Déjà, les 6 premiers joueurs qualifiés, est-ce que ça fait une bonne équipe européenne selon vous, François Simeka?
Ah oui, elle est très bien. L'ossature, là, elle me va très bien. McIlroy, McIntyre, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Rasmus Højgaard, Tyrrell Hatton, c'est des joueurs en forme. On sait qu'ils sont performants. Ils le seront dans un mois. Il n'y a pas de doute. On peut rajouter John Rahm, hein, c'est quasiment sûr aussi, ouais. qui sera dans l'équipe. Après, les autres aussi, d'ailleurs, il y a les piliers qui vont venir compléter cette équipe. Donc, on va avoir une équipe très forte et elle me plaît beaucoup.
Ok, on va avoir une équipe très forte et on va développer évidemment sur ces 6, comme on les appelle, ces 6 picks, ces 6 remplaçants, même si évidemment, ils disputent à fond cette Ryder Cup pour Team Europe. Déjà, un premier mot sur ces 6 noms, Martin Coulon.
Moi, ce qui me plaît, c'est l'expérience globale de ces 6 noms-là. Il y a beaucoup de poids très lourd de l'équipe européenne. Il y a un seul rookie qui est Rasmus Højgaard. J'ai presque envie de dire que c'est un demi-rookie dans le sens où son frère a déjà joué la Ryder Cup. Son
frère, oui, jumeau, c'était en Italie.
Donc il l'a déjà joué aussi. Voilà, c'est comme ça. Et puis
d'ailleurs, il avait été invité par Luke Donald à l'époque,
bien sûr,
pour
sans la température,
sans la température dans cette équipe. Donc déjà, il sentait que le frangin allait arriver.
Il n'était pas très loin d'une première sélection à cette époque-là à Rome. Et puis il y a son caddie, Tom Elling, qui a déjà fait la Ryder Cup avec Victor Dubuisson. Bon bref, c'est un caddie franco-anglais, donc on l'aime bien, Tommy. Voilà. Globalement, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que déjà, il y a beaucoup d'expérience, il y a des joueurs qui aiment jouer en équipe, il y a des joueurs qui aiment jouer ensemble, et que tu as déjà plein de potentialités de pairing, déjà, avec ces 6-là. Et il y a du très lourd en fait. Il y a pas de, je sais pas comment dire. T'as pas un ou deux noms où tu dis, ouh, celui-là, il est peut-être un peu limite. Non. T'as vraiment. Moi, je suis Luc Donald, je me frise les moustaches quoi. Parce que même les six pics, t'as un choix qui est quand même. C'est le choix quasiment du roi quoi.
Ok, je sais que vous voulez venir aux six pics parce que forcément c'est l'inconnu en ce vendredi. Ça va tomber dans quelques jours. On en parle dans quelques instants. Un premier mot, Fabien, sur cette équipe.
Non mais c'est bien d'essayer de se rassurer et de nous dire que c'est la plus grande équipe européenne qu'on ait jamais vue de tous les temps. Bullshit. Parce que moi je trouve que cette année, non moi je suis très très à l'aise, elle est totalement erratique cette équipe. Et je reprends un mot cité la semaine dernière par Tommy Fleetwood à deux reprises lors de son interview, c'est qu'effectivement, ça manque totalement de constance. Un Rory McIlroy, j'espère qu'il ne va pas être dans le même mood qu'il est depuis qu'il a repris les... En tout cas, il a fini la FedEx. Au contraire, à la place de Luc Donald... Je commencerai à me poser de sérieuses questions. Non, mais tu peux rigoler. Il t'a impressionné, toi, Rory McIlroy, sur les deux tournois ?
Non, pas encore.
Non, mais c'est vrai que c'est inconnu parce que c'est le leader de cette équipe et on ne sait pas dans quelle forme il va arriver, même si on sait qu'il adore la Ryder Cup, il n'y a pas de garantie.
Il finit à 12 coups du. Et encore une fois, il s'est baladé sur le parcours. Alors, il fait des trucs incroyables et tout d'un coup, il sort des shots. Mais à ce niveau-là, tu te demandes. Comment il y a des shots qui peuvent... Et encore une fois, le niveau d'une Ryder Cup, ça demande, pour un leader, et le leader qu'il est, mais un bien autre niveau de jeu qu'il est en train de produire actuellement, et j'ai même envie de dire, depuis longtemps.
Rabout de Fortola.
C'est parfait. Vous oubliez une chose, c'est qu'on a affaire à du match play. Et que les joueurs européens, qui que ce soit, les joueurs européens sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus concernés par cette formule que ne valident pas les Américains, quoi qu'on en dise, quel que soit leur niveau de jeu. Donc,
non mais t'as raison, ils n'ont jamais gagné de Ryder Cup, les US.
Non mais tout à fait, mais parce que...
Ils n'ont jamais gagné de Président Cup,
parce qu'en face, Fabien.
En match play, ils sont nuls. Et les gars, Fabien, mais restez à la maison.
C'est très bien que je n'ai pas dit ça. C'est parce qu'en face, il n'y avait pas une adversité telle, un niveau tel que l'on a maintenant en Europe. Voilà. Et ils sont capables de gagner aux États-Unis, ce qui n'est pas bien, en Europe, ce qui est capable de gagner sur les cinq continents. Voilà. Donc, effectivement, pendant très longtemps, les Américains étaient largement
favoris
parce qu'ils étaient meilleurs, tout simplement. Mais maintenant, depuis 25-30 ans, depuis l'ère Ballesteros, on est largement revenu au niveau et le match play favorise. Le jeu des Européens, mais en particulier celui de Rory.
Mais est-ce que tout le poids là, de l'équipe européenne repose aussi et en partie sur Rory McIlroy ? Est-ce qu'il a encore des choses à prouver ? C'est ça aussi
non,
la question.
Pour moi, il y a un truc que je vais mettre dans la besace de Fabien, c'est vrai que Rory, c'est un peu le totem. Mais il y a un autre totem de l'autre côté qui s'appelle Scottie Scheffler. Et si Scottie Scheffler, il passe à côté de sa semaine, toute l'équipe américaine passe à côté de sa semaine.
Il a donné beaucoup plus de garanties ces dernières semaines.
Bien sûr, sur la constance et sur la régularité. Après, sur de l'envie.
Non, mais on est d'accord avec toi. Rory, il inquiète un petit peu.
21 scores sous le par.
Non, mais il faut rester mesuré.
Comment tu veux qu'il soit... Même quand il est à côté de ses pompes, il arrive à jouer sous le par. Même quand il ne fait pas un grand tournoi, tu as l'impression qu'il joue mal, il finit troisième.
Oui. Hier, il a très mal joué. Il nous a fait des coups qu'on n'avait jamais vus. Moi, je n'ai jamais vu Scottie Scheffler entamer son tournoi par une balle hors limite et puis mettre une balle dans l'eau alors que ça devient décisif. Rory McIlroy, effectivement, il n'est pas à son top. Mais je pense qu'il lui reste encore 4 semaines pour retrouver la forme. Et je pense que c'est que dans la tête, en fait, quand il va se mettre en mode Ryder Cup, quand il va se mettre en mode match play et dans l'esprit d'équipe, parce que c'est ça aussi qui fait la grande force de l'équipe de Luc Donald, c'est que tous les joueurs s'entendent bien. Alors, vous avez vu comment ils étaient tous autour de Tommy Fleetwood dimanche dernier pour la victoire. Donc voilà, ça va le faire. Ils vont être très homogènes et je pense que Rory McIlroy va retrouver son niveau.
Vous me faites sourire, les gars. Vous me faites sourire parce que là, vous êtes en train de m'expliquer. Donc les Européens, c'est des potes, ils se connaissent bien.
Ouais.
C'est super.
Bah, bien sûr. Ça compte.
Les Américains. Parce que les Américains, ils ne peuvent pas se voir. Et en plus, vous oubliez quand même un truc extrêmement important, c'est que ça se joue à Best Page.
Ah, ça, ouais, c'est un contest.
Sur le Black Course.
Mais là-dessus, on va pas te contester.
Ça, c'est clair, oui.
Mais arrêtez de m'enjoliver le truc. C'est pas parce que moi, j'ai effectivement ma tendance naturelle.
On te dit juste qu'on a une équipe très forte, mais ça veut pas dire qu'on va gagner.
Mais les Américains, ils ont une équipe comment alors? Alors, si les Européens ont une équipe très forte, l'équipe américaine, elle est comment?
Tu peux pas mettre de côté la cohésion d'équipe. Et je suis sûr que la cohésion d'équipe, elle n'est pas aussi importante chez les Américains que chez les Européens. Je sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais ça, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une Ryder Cup, on le dit. On le dit, les Européens ont plus cette tendance, ont plus cette fibre, ont plus ces affinités. Mais bon, il faut bien aussi reconnaître que bon, les Américains gagnent souvent aussi la Ryder Cup. Donc c'est vrai que c'est un point.
Ils ont mis une branlée aux Européens. Pardon de te couper, JC. Ils ont mis une branlée aux Européens, aux États-Unis, lors de la dernière Ryder Cup déroulée aux États-Unis. Donc on s'aperçoit, en fait, le constat, il est tout simple. Le constat, là, depuis peut-être deux décennies, on s'aperçoit que quand tu reçois, tu as un avantage considérable. Et. Sauf si je me trompe, je crois que Best Page, New York, est plutôt aux États-Unis qu'en Europe. Donc, les Américains, de toute façon, quand bien même l'équipe européenne est aujourd'hui, elle va plutôt se tourner derrière, devant une locomotive qui est Tommy Fleetwood ou un Shane Lowry, plutôt
Justin
qu'un Rory
Rose.
McIlroy. Et c'est peut-être. Et un Justin Rose, tout à fait. Plutôt qu'un Rory McIlroy. Et ça va peut-être être toute la différence. Et le supplément d'âme, aujourd'hui, il est. Chez Tommy Fleetwood, quand on voit que ses potes comme Justin, comme Shane et comme Ariol, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, comme timidement il est venu, il a envie d'être avec eux aussi. Donc moi je miserais plutôt vers ces mecs-là que Rory McIlroy.
Mais ça lui va très bien Rory, de toute façon c'est pas un leader né, donc ça lui ira très bien d'être là dans l'équipe.
Non, tu peux pas dire ça, François.
Leader né.
En tout cas les amis, on va pas faire 20 minutes ou 30 minutes sur Rory McIlroy, même si on en a déjà fait beaucoup cette saison, mais c'était intéressant de vous entendre là-dessus. En tout cas Rory McIlroy, il sera avec 5 autres joueurs, on l'a dit. Maintenant je voudrais avoir les 6 picks. Pour vous, qui est garanti d'être sélectionné par Luke Donald? Est-ce qu'il y a encore des inconnus? Est-ce qu'il y a déjà 2, 3, 4 noms déjà sûrs pour vous? Martin Coulon.
Moi, j'aurais presque tendance à dire que j'en ai 5 sur les 6.
Donne-les.
T'as John Rahm, même s'il est très très loin au classement, vu la saison qu'il fait, vu ce qu'il a fait en majeur cette année, vu
ce qu'il représente.
Vu ce qu'il représente et vu le niveau de jeu qu'il développe cette année, pour moi, c'est un pic.
Ok, Rahm pour vous, pour les autres aussi, c'est
bien
bon.
Rahm, on discute pas de Rahm.
T'as Shane Lowry, puisque Shane Lowry mathématiquement, il est là, puis je vais pas refaire son CV en Ryder Cup, quoi, même ce qu'il a fait cette année, c'est quasiment obligé. Ludvig Åberg, Victor Hovland, pour moi c'est pareil, c'est de logique, c'est mathématique, ils sont dans le classement mathématique. Alors il y en a un qui m'embête un peu plus, c'est
Alors attends, j'arrive dans quelques instants.
Shane
Lowry, Rahm, Hovland, Åberg, ouais. Est-ce que pour vous ces 4 noms, est-ce qu'ils vont y être dans la sélection
oui,
de Luke Donald?
Oui.
T'en connais, Serge.
Oui.
Ok, tout le monde. Mais s'il n'y a pas débat, il n'y a pas débat, on avance.
Il n'y a pas débat.
Alors, il nous reste 2 noms. Ok, 2 noms. Vas-y, Martin.
Moi, je suis hyper embêté par Seb Straka. Tu l'avais dit lors d'un précédent podcast, mon cher Amouch, qu'il te posait souci. C'est le 12e joueur mondial. C'est un pilier de l'équipe européenne au sens physique du terme. Le gars a gagné sur le PGA Tour en début d'année. Il a fait une bonne saison. Mais depuis 2-3 mois, j'ai presque envie de dire, il n'est pas là, le type, quoi.
Donc pour il n'est pas là sur les majeurs non
il
plus cette saison. Majeurs,
c'est un peu inquiétant et quand tu veux
c'est
un bon.
C'est du match play, les Européens adorent ça.
Mais tu sais quoi, c'est possible que ce soit ce genre de raisonnement-là qu'un mec comme Luke Donald ait, en se disant le bonhomme peut se transcender en match play, peut être peut-être un peu plus irrégulier justement dans cette formule-là, qui sait, j'en sais rien. Mais à Best Page, il faut quand même des gros cogneurs, il faut des gros punchers et il en fait partie. Moi j'ai un vrai sujet sur qui c'est le dernier pick.
Alors attends,
Seb Straka, il était dans les points juste avant le British Masters. Donc il a été éjecté là par la remontée de Rasmus Højgaard. Mais ça reste pour moi un incontournable. Il a une Ryder Cup à son actif. Il a prouvé qu'il pouvait performer dans des conditions stressantes comme le sont les conditions en Ryder Cup. Et puis il connaît les États-Unis et ça c'est hyper important. C'est hyper important. C'est un joueur du PGA Tour. Et ça va faire la différence, ça, au moment de faire le choix.
Ok, là, ça me fait donc un 5e nom. Voilà. Est-ce que vous le validez, Fabien et Ramucho, Seb Straka? Est-ce que pour vous, il doit faire partie de cette équipe, Fabien?
J'ai une grosse interrogation aussi, et elle vient plus de son état mental, parce qu'on ne sait pas pourquoi il a été absent du premier tournoi des playoffs. Et je ne sais pas, Et je pense qu'on ne le saura pas tout de suite. Mais pour moi, je mets un point d'interrogation. Je le mets dans l'équipe parce que, eu égard à tout ce que vous avez dit, et j'y souscris à 2000%. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit souci.
Ok.
Ah, ça sera la surprise en tout cas. S'il n'est pas dans l'équipe, ça sera la surprise.
Une grosse surprise, oui. Oui, tout à fait. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, mais effectivement, oui, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Mais
ok.
Concernant le...
Normalement, il devrait y être. Oui. Donc moi, ça m'en fait 11. Hein. Il m'en manque un 12e. Alors, c'est qui le 12e?
Ariol.
Ouais,
Ariol.
Il y a...
Il fait partie de... Pour moi, il y a 4 joueurs. Ça se joue sur 4 joueurs. Ce fameux Ariol. Ça, c'est clair et net que lui...
Racontez un peu l'histoire d'Ariol, parce que c'est pas le joueur le plus connu, mais je sais qu'il y a un excellent papier dans golfplanet.com sur Ariol. Et si c'était le 12e homme?
C'est clairement un Anglais de 28 ans qui vient de faire...
Il n'a pas suivi les filières classiques.
Il n'a pas suivi du tout les filières classiques.
C'est un joueur du PGA Tour, surtout. Voilà, ça, c'est important.
Et qui a fini 17e de la FedEx cette année, mine de rien. Qui a sur 25 tournois, il a fait 22 cuts et 5 top 10. Il fait 19e du PGA Championship et 28e de The Open. C'est ses deux seuls majeurs cette année. Enfin, pour moi, c'est une belle révélation. Ouais. Ses stats sont folles. Ses stats de putting sont folles. Alors, moi, le seul bémol, c'est sa qualité de driving et sa puissance de frappe. Et à Best Page, c'est un incontournable.
J'aimerais ajouter quelque chose d'extrêmement important. Qui plaide, mais vraiment en faveur d'Harry, c'est qu'il a joué le dernier tour avec Rory McIlroy.
Il a mis
moins 4. Et je pense que, quelque part, c'était une forme de test. Et je suis persuadé que Rory a dit, putain, le mec, il joue au golf, il est solide, il a une super attitude. Les résultats, il n'y a même pas de débat. Va comparer une 17e place à la FedEx avec ce que fait Nicolai, ce que font Marco, qui c'est des super résultats, mais le niveau quand même est largement supérieur. Et François, tu l'as dit, c'est un mec qui est archi habitué du PGA Tour, de se faire chambrer, les cris, les machins,
les parcours,
et j'allais terminer, et les parcours monstrueux. Et le Black Course est un parcours monstrueux. Moi, je le mettrais en balance avec Marco Page. Pourquoi Marco Page? Parce que le mec est un bombardier. Il fait beaucoup de birdies. Il tape tellement fort qu'il peut y avoir aussi, en match play, beaucoup de chance d'eagle. Et il a un jeu très, très complémentaire à certains joueurs, aux autres joueurs européens. Donc, pour moi, je le mets quand même un petit peu en balance avec Marco Page. Et je ne pense pas, mais peut-être que je me tromperai, que Luke Donald, parce que Nicolai est le frère de Rasmus, il va l'intégrer dans l'équipe.
Ah, ça, on va en parler dans quelques instants de Nicolas Hoegaard, parce que c'est vrai que les frères jumeaux, ce serait une belle histoire, qu'ils soient ensemble dans cette équipe européenne. Je reviens juste sur Ariol, parce que je ne vous ai pas tous entendu sur ce joueur. Je ne dis pas qu'il sort de nulle part, mais on ne l'attendait pas au début de saison dans l'équipe européenne de Ryder Cup. Et voici ce qu'a dit Paul McGinley, le conseiller en stratégie de Luke Donald au sein de l'équipe européenne de Ryder Cup. Il a dit « Je sais qu'on dit qu'Harry est à l'extérieur et qu'il ne fait pas partie du Boys Club. C'est n'importe quoi. Je peux vous assurer que Luke Donald a été en contact régulier avec Harry et qu'il le pousse comme tous les joueurs. »
Ça, c'est toujours la même chose avec l'équipe européenne et le staff de l'équipe européenne. T'as l'impression qu'il y a des mecs qui arrivent de nulle part et qui vont être sélectionnés comme par hasard en Ryder Cup, un peu backdoor, mais non. Paul McGinley en particulier, c'est l'un des premiers capitaines de l'équipe européenne à avoir presque systématisé cette espèce de... Il regarde tout le monde. Il étudie tout le monde, il regarde les stats de tout le monde pour être sûr que, si un bonhomme est en forme en début d'année, ce qui était le cas de Ariol, qui réalise une des plus grosses saisons de, j'ai presque envie de dire du top 20 mondial, même s'il n'en fait pas partie, tu peux pas passer à côté d'un joueur comme ça. Tu peux pas passer à côté d'un mec, d'un Anglais, d'un Européen qui fait 17e sur la FedEx Cup. Tu peux pas, c'est impossible de ne pas le considérer même depuis 6-8 mois.
Okay.
C'est toujours pareil, c'est toujours, est-ce qu'on privilégie le statut du joueur ou la forme du moment? C'est ce qu'on disait déjà, c'est un dilemme.
C'est pas grave, c'est du match play.
Non, c'est au-delà
c'est
de la forme
dilemme,
du moment. C'est au-delà de la forme du moment, c'est est-ce qu'il va dans une équipe qui est déjà constituée? Est-ce qu'il se met dedans? Parce que le système européen par rapport à cette création d'une équipe, et je pense que les Américains petit à petit viennent enfin là-dedans, c'est de se dire on sélectionne des joueurs qui jouent de manière magnifique.
Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des billes sur est-ce qu'il est bien avec les autres? Lui, l'anglais,
il est anglais.
Est bien avec Tommy Fleetwood.
Il est anglais, donc déjà, ça joue en sa faveur, ça plaide en sa faveur. Il est anglais, donc on sait que l'ossature de l'équipe européenne depuis plusieurs années, c'est des Anglais, des Britanniques.
Mais il est
et on
quand
rajoute
même...
des petites touches européennes de joueurs européens continentaux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc,
il est en balance également avec deux autres Anglais.
Fitzpatrick, on n'en avait pas parlé.
J'y crois pas beaucoup.
Et Matt Wallace, tout dépend de ce qu'il fera en Suisse. Je ne pense pas. Mais
joueur du Pidgey Tour aussi, c'est
aussi.
Important ça.
Aussi.
Fabien.
Si on doit comparer, vous vous souvenez, la dernière Ryder Cup, on a tous été surpris de ne pas voir Meronk, qui, compte tenu de la saison qu'il avait faite, et. Mais là, c'est totalement différent. C'est que Meronk, qui jouait quand même sur le circuit européen, certes. Il avait fait une très belle saison, mais là on parle quand même d'un joueur. Alors il vient de nulle part, ok, mais enfin quand on connaît un petit peu le golf et qu'on s'y intéresse, il n'est pas sur le PGA Tour depuis cette année. Il monte en puissance.
Il a gagné l'année dernière. Ouais.
Voilà, il est discret, il a gagné un tournoi du PGA Tour. Enfin, c'est totalement différent. Et la décla de McGinley, quelque part, c'est. Ben écoutez, ladies and gentlemen, je vous prépare un peu à cette belle surprise. Il y a peut-être de fortes chances que Ariol fasse partie de l'équipe. Et je trouve que l'équipe européenne a aussi besoin de ces porteurs d'eau, de ces mecs discrets, mais qui font le job, qui rentrent les putts, parce qu'ils rentrent des putts parfois 3 à 4 mètres pour sauver des parts, pour faire un birdie, pour... C'est sûr qu'il n'est pas impressionnant, il ne drive pas à 320 mètres, il fait des trucs un peu classiques, et d'ailleurs il a un look assez classique. Puis alors moi, un simple, le dimanche, Harry Hall, Bryson DeChambeau, tous les deux avec leur casquette, mais je paye,
heureusement.
Il va lui mettre 100 mètres, mais ça va être magique. David et Goliath, enfin, c'est ces histoires-là qu'on veut à la Ryder Cup.
Alors, c'est... Je résume, les amis, je résume. Pour les six pics, on a Shane Lowry, on a Yon Ram, on a Hovland, on a Huberg, on a Straka, et c'est le 12e homme qui manque. Alors le 12e homme, maintenant, on a évoqué quelques noms. J'ai vu qu'il y avait du Harry Hall, je pense que ça, c'est pour Fabien Donoyan. Vous mettez qui, là? Qui vous signez, là, tout de suite, Ramucho?
Fitzpatrick.
Ok, pourquoi?
Parce que, ben voilà, moi, je privilégie, du coup... je prends le risque de privilégier le statut du mec, son expérience sur les grands rendez-vous, 5 Sparks dans la Ryder Cup, même s'il n'a pas été brillantissime. Voilà.
Mais The Open marche pour lui quand même.
Il est prêt, il connaît les grands rendez-vous, il connaît les échéances.
Cette saison.
Et si son capitaine Luck lui dit « Je veux que tu sois prêt, je compte sur toi », je pense qu'il... Il va être là.
Ok, Harry Hall pour Fabien, j'ai Fitzpatrick pour Ramucho, Martin.
Moi, je vais sur Harry Hall à bloc aussi. Je vais sur Harry Hall pour toutes les raisons dont on a parlé, évidemment, mais aussi sur cette notion de, il y a un moment, il faut aussi faire entrer des rookies, et surtout des rookies qui sont en forme, des rookies qui ont l'habitude des États-Unis, parce que c'est évidemment une Ryder Cup en terre américaine, donc ça va être d'une violence dingue, et ce bonhomme-là, Harry Hall, même si... Bon, il a l'air un peu gentil avec son béret, machin, bidule.
Ouais.
C'est typiquement le profil de joueur qui, à mon sens, peut se révéler être une machine à tuer dans ce genre de rendez-vous-là. Donc, moi, j'irais vers Harry Hall, clairement.
Okay. Je suis complètement d'accord avec Martin. Harry Hall, il faut le prendre. D'abord parce que c'est un joueur du PGA Tour et je pense qu'il faut privilégier dans une Ryder Cup qui se joue aux États-Unis des joueurs du PGA Tour qui ont l'habitude de l'ambiance et des parcours.
Donc, c'est une équipe européenne en privilégiant les résultats et surtout en privilégiant leur carrière américaine. Donc,
bien sûr, de toute façon, maintenant...
Les joueurs européens qui évoluent sur le
golf mondial est totalement polarisé vers les États-Unis. Donc
si tu fais un carton sur le DP, tu fais un carton sur le DP...
Ça, on y vient dans quelques instants, ouais, avec la polémique lancée par Adrien Sattier.
Malheureusement.
Juste pour dire à tous ceux qui nous écoutent, n'attendez pas lundi pour avoir l'équipe européenne. On vous l'a faite, cette équipe européenne.
Voilà.
Vous pourrez le dire. Je l'ai entendu le vendredi, déjà dans le Practice RMC, avec tous les experts et avec Harry Hall comme 12e homme de cette équipe de Luc Donald. Évidemment, je relèverai les copies et les noms pour voir si on ne s'est pas trop planté.
J'y sais.
Oui.
J'aimerais juste faire un point mode. C'est pas un béret, Martin. C'est bien une casquette. tête, parce que Ramucho, qui connaît quand même le béret,
c'est pas, en tant que basque,
c'est,
ouais, évidemment.
C'est pas pareil. Hein.
Ok, très bien. C'est important les points mode aussi dans le
practice. Très important.
On est là pour vous renseigner sur un petit peu tout. Je parlais de polémique, ou non d'ailleurs, parce que je sais que François, tu es bien au courant de la situation. C'est Adrien Sadier que le grand public a connu lors de l'Open d'Italie, lui qui a remporté ce tournoi il y a quelques semaines, qui a ouvert un débat sur les points pour le classement qualificatif pour la Ryder Cup, la façon dont ils étaient distribués. Et pour lui, il y a un grand déséquilibre entre les joueurs qui évoluent sur le PGA Tour et ceux qui sont cantonnés, tu en parlais il y a quelques instants, Ramucho, au DP World Tour. Voici ce qu'il a dit sur X. Et il parle notamment d'un joueur hein, qu'il aime beaucoup. Je vais retrouver son nom.
Marco Pench.
Exactement.
Il fait partie de la team Mizuno comme lui. Donc voilà.
Il plaide pour lui et aussi parce qu'il est dans son équipementier. Deuxième de la course à Dubaï et seulement 14e au classement de la Ryder Cup. Les points de qualification, c'est une blague. Est-ce que tu peux nous résumer la situation, François ?
Ah oui, je peux vous la résumer. D'abord, il faut rappeler qu'avant, il y avait deux classements. Un basé sur les points mondiaux, un basé sur les points européens pour constituer la sélection de l'équipe européenne. Ça, c'était avant. Avant quoi ? Avant l'émergence du livre et l'immense place prise sur l'échiquier du golf mondial par le PGA Tour aux dépens du DP World Tour, que personne ne peut contester ici. Depuis l'alliance stratégique qui a été signée en juin 2022 entre le DP World Tour et le PGA Tour, tous les meilleurs joueurs du circuit européen émigrent sur le PGA Tour. 10 chaque année depuis 2023. Donc forcément, on peut le déplorer, mais c'est incontestable. D'ailleurs, Penge, et on l'espère Adrien Sadier, visent tous cet objectif, aller sur le PGA Tour l'année prochaine, peut-être. D'ailleurs, Adrien Sadier, il est 12e de la race, il est en position d'être dans les 10 qui bénéficieront d'une catégorie l'an prochain sur le PGA Tour. Du coup, exit les points européens, on attribue les points en fonction de l'importance des tournois, sous-entendu de la qualité du champ de joueurs. Les majors, c'est 5000 points, les signature events, c'est 3000 points, les Rolex Series sont l'équivalent des tournois réguliers du PGA Tour avec 2000 points. Et après, les tournois réguliers du DP World Tour, c'est entre 1000 et 1500 points. Et du coup, Marco Pench, il a quasiment aucune chance de se qualifier. Il est 14e de la liste des points.
Exactement, au classement de la Ryder Cup, voilà. Alors qu'il fait une saison extraordinaire.
Alors, je ne sais pas si Luke Donald va faire appel à lui lundi, mais malgré ses deux victoires sur le DP World Tour, il me paraît logique.
Extraordinaire.
Si, il fait une très belle saison. Il gagne deux tournois.
Non, mais pardon. Il fait une très belle saison. Parce que, pardon François,
vas-y.
Marco Pench, il est allé jouer aussi un peu aux US.
Ah bah il a rien fait. Ouais.
Merci.
Il est allé en 2024, il a fait deux tournois, les tournois Alternate, il n'a pas passé le cut. Il est allé cette année à l'USPGA, il a fait un bon résultat, il a fait 28e.
Voilà, donc Marco Pench, il a quand même eu 2-3 chances, y compris dans les majeurs.
Non, en 2024, ça ne comptait pas. Ça
non, comptait non, pas. Je te parle de 2025.
Eh ben, 2025, il a fait qu'un majeur.
Voilà, 2025, donc je pense... Alors moi, je comprends la frustration d'un Adrien Sadier et why not ? Mais tu l'as parfaitement dit en introduction. Aujourd'hui, le DP, c'est la seconde division. Tout se passe sur le PGA Tour. D'autres joueurs qui sont sur le livre, comme ils performent en majeur, ils marquent suffisamment de points. Je pense à Terry Latton qui a fait une très grosse performance en début d'année sur le DP. Enfin, il y a pas de contestation aujourd'hui. Déjà, déjà que ça va pas être simple de gagner avec les meilleurs joueurs du monde. Et évidemment, ils jouent tous sur le PGA Tour. Mais alors, si en plus on intègre.
Ah bah, l'équipe, elle aurait été beaucoup plus faible, c'est incontestable.
Voilà, donc, mais je comprends quand on est joueur,
ouais.
Quand on.
L'année prochaine.
Tout le mal qu'on souhaite à un Adrien Sadier, un
c'est
Martin
d'être sur le PGA Tour l'année prochaine.
Un Romain Langas qui est aux autres, et évidemment, et c'est d'aller se confronter à ce qui te fait de meilleur. Parce que si en plus on prend une comparaison avec Mathieu qui malheureusement a pas performé cette année parce que parce qu'il est en changement de swing, parce que bref, on va pas revenir là-dessus, mais tous les tournois lui étaient ouverts pour marquer des points et faire partie de l'équipe. Mais encore une fois, et tu l'as très bien dit en introduction, il faut faire partie de ce circuit majeur qui est le PGA Tour, et on leur souhaite, et le golf français se porte quand même de mieux en mieux. Donc ça viendra, bien sûr.
Ok, ça viendra. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, Martin Hérault?
Ouais, moi, je vais être assez désobligeant envers le Tour européen, mais c'est comme si tu demandais au capitaine d'une équipe américaine d'aller chercher des joueurs sur le Corn Ferry. Parce que bah, clairement, malheureusement, et c'est indirectement ou directement la faute aussi des joueurs, d'avoir laissé filer tous les meilleurs Européens sur le PGA Tour. De ne pas s'être battu quand c'était le moment de se battre pour dire « Attendez les gars, le Tour européen, c'est quand même le circuit européen, c'est pas un circuit de seconde zone. Oh, » Quand est-ce qu'ils se sont battus, les gars, dans les players meetings, pour dire « Oh, il faudrait quand même que les meilleurs... »
Ils sont complètement à la botte du PGA Tour. Depuis 2022, l'alliance stratégique, on est complètement à la botte du PGA Tour.
Oui, mais sauf que le Tour européen, c'est le circuit des joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc que les joueurs se plaignent, et je le comprends encore une fois, donc quand on est sportif de haut niveau, t'as envie de voir performer des gars, et quand tu vois un mec comme Marco Pench gagner deux tournois sur un circuit d'attache...
Mais il reste tous d'aller de l'autre côté.
Soyons pas naïfs.
Moi, c'est cette douce naïveté quand tu sors des côtes comme ça qui me...
Et quand il y a trois joueurs du PGA Tour qui viennent jouer sur un tournoi régulier du DP World Tour, ils trustent les premières places, les mecs, ils sont au-dessus. La plupart.
Les gars, on parle du circuit européen avec combien de tournois au Moyen-Orient ? Enfin, on sait très bien d'où viennent les fonds, on sait très bien que c'est construit comme ça, et effectivement, mais quel joueur a le charisme aujourd'hui, étant donné que la plupart des Européens jouent sur le PGA Tour et sur le livre, est en capacité d'aller taper du poing sur la table. En fait, c'est le rayonnement du golf aujourd'hui, il passe... exclusivement, mais j'ai pas envie de dire malheureusement, parce que quelque part, le fait qu'il y ait 10 spots par an pour aller sur le PGA Tour, c'est quand même hyper chouette. Enfin, vous n'allez pas me dire que la plupart des joueurs européens ou qui jouent le Tour européen ne rêvent pas d'aller sur le PGA Tour.
C'est sympa. C'est sympa, les Américains, ils nous filent 10 spots. Bon, on est à leur botte, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi, sans tout remanier, pourquoi on a des Rolex Series quand même sur le DP World Tour? Ils sont quand même à 1000 points, ils ont 1000 points de moins que le Signature Events où il n'y a pas une parfois pas de cut. Pas de cut, si t'as des gros champs quand même. T'as des gros champs sur Rolex Series. Pourquoi on n'essaie pas d'équilibrer au moins les Rolex Series?
Ça n'aurait rien changé, ou pas très peu.
Mais t'as pas assez de joueurs mondiaux dans le top 20.
Alors, un joueur européen qui est attaché à son circuit, à son continent, peut faire une croix donc sur une éventuelle qualification sur la Ryder Cup.
Ça, c'est triste.
Malgré son niveau.
C'est triste.
C'est la réalité des points distribués.
C'est la réalité. Le golf mondial, aujourd'hui, c'est de l'autre côté de l'Atlantique.
Voilà. Qu'on se le dise, les Européens. On terminera là-dessus, sur cette belle phrase de François Simeka de golfplanet.com, évidemment, pour bien se renseigner, pour tout savoir sur ce qui se passe sur la planète golf. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, la Dream Team, Fabien, Ramucho et Martin. Sachez que donc l'équipe de Luc Donald, ce sera lundi. Et je vais vérifier, attention à votre groupe WhatsApp, si vous ne vous êtes pas trompé sur la composition de l'équipe de Luc Donald. Si tu veux, je te donnerai quelques points. On se retrouve pour le 50e numéro de la saison qui va sortir lundi prochain. On va s'intéresser à la Ryder Cup Junior. 6 Français, Françaises qualifiés dans l'équipe européenne et notamment Sarah Brenchenef, 17 ans, qui sera notre invitée. D'ici là, l'Insta du Practice RMC. Allez, bon golf à tous. Salut.
Le Practice RMC.